Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour madame, c'est l'école du Bois Joli. Comment ça, qui? Quoi? Oui, je suis la directrice. Oui, bah la maîtresse de votre fille du coup. Bah si, vous me remettez pas? Si, vous savez, je suis la dame brune, pas très mince, avec les cheveux longs là. Voilà, ça y est, c'est moi. Bon, je reprends. Bon, alors, je vous appelle pour vous informer qu'elle est qu'à contact d'une camarade de classe. Alors, selon le 4e alinéa de la foire aux questions du 136e protocole de l'éducation nationale, vous devez donc venir la récupérer pour la faire tester. Voilà, je vois. Non, plus d'isolement de 7 jours, puisque Apolline est voisine d'Arthur de 2 rangs, avec un angle de 45 degrés nord-nord-est, et elle ne mange pas à la cantine, donc c'est parfait. Donc, ce sera donc un isolement de 9 jours avec un test PCR à J0, un test antigénique à J3, un test salivaire à J6 et un autotest à J9. Ah, excusez-moi. Ah non, je vois sur la fiche de renseignement d'Apolline, je vois qu'elle est Sagittaire ascendant Capricorne. C'est bien ça? Oui? Vous êtes chanceuse? Ben oui, dites. Oh non, oubliez tout ce que je vous ai dit. Non, elle peut revenir dès J5. Par contre, il faudra nous fournir 3 poil de crin de licorne, une plume de phénix arrachée un soir de pleine lune un 30 février, si possible, ainsi qu'une attestation de non-burnout de moi-même. Mais je ne vous cache pas que ça va être le plus compliqué à nous dénicher, hein. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard. Non, il faut venir récupérer votre fille, hein. Oui, le plus rapidement possible, évidemment. Non, mais pas de soucis, non, je suis dans mon bureau. Mes élèves, ah non, ils sont dans la cour. Ben, ils font un foot, on a trouvé une grosse pierre ce matin, en ouvrant le portail, ils jouent au foot avec des pierres. Ah. Bon, ben, écoutez, parce que moi, j'ai pas le temps de leur faire classe, en fait, hein, du coup. Bon, allez, je vous attends. Et un de plus, youhou, plus que 22.
Vous écoutez Micro-ondes sur Radio Campus 90.8 et on est ensemble jusqu'à 14h. Cet énième protocole sanitaire inapplicable, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, conduisant au moins 75 000 personnes dans la rue. En effet, le 13 janvier, selon les chiffres du ministère de l'Éducation, près de 40% des enseignants du primaire et 25% des enseignants du secondaire étaient en grève. Les syndicats parlent, eux, de 75% au premier degré et 62% au second. S'ajoutent à cela les AED, les assistants d'éducation, et les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Les précaires de l'éducation nationale, dont j'ai pas pu trouver les chiffres exacts de mobilisation. Pour en parler aujourd'hui, on a invité dans Micro-ondes plusieurs personnes. Donc autour de la table, on a Romain et Charlotte, qui sont enseignants au premier degré en CE1 dédoublé. On a aussi Hera, qui est AED au collège. Il y a Mounaïm, qui est prof de lettres-histoire en lycée pro. Et Géraldine, qui est enseignante de lettres en lycée général. Et à l'animation, il y a Lou et Clairly, et à la technique, Cynthia. Alors, on vient d'écouter un sketch d'une directrice d'école. Finalement, c'est quoi ces protocoles dont elle parle et qu'elle décrit comme un cauchemar organisationnel?
Eh ben, moi, je ne connaissais pas ça. Enfin, je trouve qu'elle l'a plutôt bien décrit. Hein. Enfin, là, on est arrivé... en janvier, avec ce protocole du 7 janvier, à une situation, un gros bordel, quoi. Ça a été géré, c'était un peu la catastrophe, quoi. Des classes fermées, des appels le matin par les enseignants pour dire aux parents de venir récupérer leurs enfants, des enfants qui reviennent au compte-gouttes, et puis on a vu des situations de stress... des collègues et des parents au portail, quoi. Donc moi je trouve que c'était plutôt bien joué là, ce truc.
Charlotte, t'en penses?
Oui, et en plus, je pense que pour les directeurs qui ont déjà, ou les directrices qui ont déjà beaucoup de travail, ces protocoles successifs dont on n'avait jamais les tenants, les aboutissants avant, mais qu'on découvrait en même temps que tout le monde sur BFM TV, puisque c'était là où finalement il s'adressait aux enseignants comme aux parents, comme à tout le monde. C'était une source de stress et ça venait s'ajouter à la masse de travail qu'ils avaient déjà, ou qu'elles avaient déjà, et c'était quand même très très compliqué parce que plus aucun travail pédagogique. Un directeur ou une directrice à l'école primaire, c'est aussi, alors au-delà de gérer tout ce qui est administratif, et normalement la vocation aussi à avoir une direction pédagogique et à donner certains élans, certains projets. Là, on n'a pas parlé de pédagogie, ni même d'élèves en difficulté. Je veux dire, toutes les heures, on a des heures de réunion pour parler d'élèves en difficulté, pour parler de projets ou de plein d'autres choses. Toutes ces heures-là, on n'a pas pu les faire parce qu'elles étaient dédiées à la gestion de la crise, à la gestion des millions de protocoles, enfin des millions, j'exagère, non, des multiples protocoles qui se sont succédés.
Hera, tu as rajouté quelque chose ?
Oui, donc nous, au collège, c'était aussi autant difficile. En tant qu'AED, nos missions principales n'étaient plus du tout respectées par les protocoles. Ça nous est arrivé d'appeler une cinquantaine de parents par jour, parce que quand il y avait un seul cas Covid, c'était la classe entière qui fermait. Au début, c'était comme ça. Donc là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'appels, donc beaucoup de travail. Et en fait, les missions générales des AED ne pouvaient même plus exister, c'est-à-dire la sécurité, la surveillance, mais aussi tout le côté humain, accompagner les élèves, parler, échanger, aider aux devoirs, on ne pouvait plus. Et déjà qu'on n'est pas beaucoup, c'était un travail énorme. Et puis, au fur et à mesure des différents protocoles sanitaires, au bout d'un moment, il a fallu retracer avec qui mangeait avec qui. Donc, on devait demander aux élèves de s'inscrire sur des feuilles, sur les tables de self. On devait les prendre dans des enveloppes. Et dès qu'on avait un cas contact, il fallait regarder feuille par feuille qui avait mangé avec qui pour appeler. Ensuite, il a fallu demander l'état de la vaccination des élèves, ce qu'on normalement n'a pas le droit. Mais aussi, on n'est pas éligible à recevoir des attestations de tests négatifs, de vaccination, des QR codes. Mais on nous a demandé, on est devenus des secrétaires médicaux. Et c'était très difficile parce que c'est un travail qui a demandé énormément de temps. Et on n'arrivait même plus à faire correctement l'appel parce que on faisait que le Covid, que le protocole. On devait remplir des tableaux, on devait appeler des parents. Et en plus, souvent, ils ne pouvaient pas venir les chercher au dernier moment. Donc, on avait des salles où ils étaient isolés. C'était vraiment pas facile, ni pour eux, ni pour nous.
Là, dans ce que vous me dites, il y a à la fois le fait que le protocole, il a changé de nombreuses fois. Je ne sais pas si vous avez en tête le nombre de fois où il a changé, d'ailleurs.
Non.
On ne compte plus. Il y a aussi le fait que, du coup, vous êtes retrouvés, que ce soit les directeurs et directrices, les professeurs ou les AED, à assumer un rôle qui n'était plus du tout un rôle pédagogique, donc ce qui débordait complètement vos missions. Si on vous demandait là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, est-ce que vous avez l'impression... Est-ce que ce soit en tant qu'enseignant AED ou en tant que, pour les personnes d'entre vous qui sont syndiquées, en tant que syndicalistes, ce serait quoi les recommandations ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, en fait, différemment ? Sans vous demander de refaire un protocole, enfin voilà.
Voilà.
Charlotte ?
Non, du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour gérer la crise sanitaire ou pour continuer à travailler correctement ? Je pense que à un moment donné, avec les derniers variants qu'on a eus, on s'est rendu compte quand même qu'il était moins vigoureux et que tout le monde allait l'avoir. Donc, et que les tests, nous on a eu plusieurs enfants qui étaient symptomatiques, mais dont les tests se sont révélés positifs bien après les symptômes. Parce qu'ils se sont testés parce qu'ils étaient cas contact. De toute façon, ils étaient toujours cas contact. Tout quelqu'un de l'école ou quelqu'un ou d'un cas contact familial. Ils étaient tous cas contact un peu tout le temps. Donc, ils ont passé un mois et demi à se faire gratter le nez tous les deux jours. Et je pense qu'à un moment donné, on aurait dû accueillir... Enfin, voilà, faire un test peut-être au bout de deux, quatre. Je ne sais pas. Par contre, je ne peux pas dire. Voilà, pour vérifier. Et puis, faire confiance aux parents. accueillir les enfants qui viennent, parce que les parents, ils n'avaient pas envie de mettre leurs enfants malades à l'école. Tous ceux qui ont eu des symptômes sont restés à la maison. Jamais les parents, enfin, je ne sais pas pour les autres collègues, mais nous, on n'a jamais eu à appeler un enfant malade. D'habitude, on a toujours des enfants malades en classe. Là, jamais ça nous est arrivé. Donc, il aurait fallu faire confiance aux parents. Un enfant qui présentait des symptômes ne venait pas à l'école et se faisait tester. Ceux qui ne présentaient pas de symptômes venaient à l'école. Et ensuite, je pense qu'on aurait dû répartir les élèves dans les classes. La répartition était interdite dans les classes. Ce qui veut dire que si un enseignant était absent, ou parce qu'il avait le Covid, ou parce que son enfant avait le Covid, ou pour une toute autre raison, tous ces élèves étaient obligés de rester à la maison. On avait le droit d'accueillir, je crois, à la fin quand même, on avait le droit d'accueillir les enfants de personnel soignant ou aidant. Et comme il y avait peu de remplaçants, tous ces enfants sont restés à la maison. Je pense qu'on aurait pu accueillir, même si ça aurait été des situations difficiles, hein, avec une surpopulation d'élèves en classe, mais on aurait pu essayer de faire en sorte d'accueillir un peu plus les élèves dans ces cas-là.
Héra, tu voulais réagir ?
Oui, nous, en tout cas, au collège de Tulin, du coup, les AED donc, et certains et certaines profs, on a fait grève pour demander des moyens. On a demandé notamment une création de postes Covid, parce qu'on ne pouvait pas faire sans aide, qui puisse gérer les papiers, les attestations, les cas contacts et les appels. Peut-être deux ou trois personnes, ça nous aurait beaucoup aidé. Donc je pense que si on avait eu plus de moyens, autant humains que matériels, on aurait peut-être mieux géré aussi à l'école.
Et tu nous disais avant l'émission que ça n'a pas été entendu, que finalement votre mobilisation, elle a pas débouché sur la création d'un poste Covid.
Non, effectivement, au rectorat, on nous a donné 5000 heures du coup pour la région, 5000 heures supplémentaires. Sauf que les heures supplémentaires ne peuvent pas être faites par les temps pleins. Donc en fait, ça ne nous a servi à rien. Et en plus de ça, on est fatigué. Et on a bien dit au rectorat qu'on était fatigué, qu'on était surmené. Et la réponse des heures sup, ça a été une insulte envers notre état psychologique après tous ces protocoles et la situation actuelle.
On va reparler de la mobilisation juste après, mais est-ce que Géraldine ou Mounaïn, par exemple, voulait réagir ? Oui, Géraldine.
C'était vraiment, essayer de renchérir sur le surmenage. Moi, je me rappelle encore il y a un an, quand on était au lycée, en fait, on a eu les lycéens sont beaucoup restés à la maison. Donc, on les accueillait très, très peu. Et ce qui veut dire qu'on a eu énormément de suivi à faire en ligne. Et là, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que les élèves, il fallait faire en sorte qu'ils suivaient. Et s'ils n'étaient pas là, on appelait les parents. Les familles aussi, à contrario, pensaient qu'on était disponible 24/24, donc envoyaient des mails à minuit, il fallait qu'on leur réponde. Enfin, c'était des choses assez ubuesques. Et il n'y avait pas de garde-fous. De règles, à savoir, ok, comment on fait, qu'est-ce qui est mis en place. Pour le coup, là, le protocole, il n'existait pas du tout. C'était, ok, il y a l'école à la maison, la classe à la maison, on a un logiciel en ligne, et on a donc École Directe. Nous, on marchait avec École Directe, le logiciel absence-présence cours. Et à partir de là, il n'y a eu aucune directive, il n'y a eu aucune règle posée, notamment dans la communication avec les familles, avec les gamins. Donc des gamins décrocheurs, qu'est-ce qu'on en fait ? Cadrer aussi le lien avec les familles, enfin tout ça, ça mobilisait et on n'était que là-dedans, quoi.
Mounaïn, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais rebondir justement par rapport à ce que disait Géraldine. Donc pendant le premier confinement, effectivement, ça a été un enfer de faire cours, de gérer les parents, de gérer les absences et on n'avait absolument aucune directive par rapport à tout ça. D'autre part, je pourrais parler aussi de ce qui s'est passé avec tous les cas contacts, les cas Covid. On a eu aussi une surcharge de travail parce qu'il fallait envoyer le travail aux élèves qui étaient absents, qui étaient cas contact. Et moi, ça m'arrivait souvent d'avoir une dizaine, voire une quinzaine d'absents dans une classe. Et tous ces élèves-là, il fallait leur envoyer le travail à la maison, il fallait corriger, Et ça nous faisait une surcharge de travail énorme.
Et donc finalement, le dernier protocole, enfin les derniers protocoles qui sont sortis là en janvier, c'est plus, ça, c'est un peu comme le paroxysme de ce qui a été vécu pendant 2 ans, quoi. Enfin, pendant 1 an et demi. C'est pas tellement quelque chose de... Enfin, disons que la crise n'était pas forcément mieux gérée il y a 1 an. Je ne sais pas ce que vous avez vu une différence nette en janvier. Là, est-ce qu'il y a eu une rupture nette ou est-ce que finalement c'est juste que la situation elle s'est dégradée.
Disons que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense que le confinement plus tous ces protocoles, toutes ces injonctions là, sanitaires, ça a révélé des choses, des manques en moyens humains et structurels. Ça a révélé la pénurie de remplaçants. C'est difficile de répondre à ça parce que la pandémie c'est quand même un truc, on n'avait jamais vécu ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais ça arrive sur une école qui est déjà en ruine en fait. Et là, le fait d'essayer de gérer comme ça avec du bricolage les contacts, les cas Covid, tout ça. Ça amène une surcharge de travail, bien sûr, puis après, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'éducation nationale. On n'a pas de médecine préventive, on n'a pas de personnel qui peuvent effectuer ces trucs de traçage ou d'appel aux familles, et c'est les enseignants qui, du coup, font plus de pédagogie et deviennent même des espèces de contrôleurs sanitaires quand ils sont au portail pour voir qui a bien fait le test, qui n'a pas fait le test. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. Enfin, si on est censé être un service public, là, on n'est pas là-dedans, quoi. La gestion un peu de l'épidémie de la part du ministère, c'était plus école-garderie. On veut que l'économie continue à tourner, donc on va faire en sorte que les élèves puissent aller à l'école, au mépris des travailleurs et travailleuses, puis au mépris des familles et de leurs enfants, quoi.
On vous propose, avant de continuer, une petite pause musicale avec Enlève ton masque de Damien Saez, qui sera suivi d'un reportage qui, justement, a été réalisé lors de la mobilisation du 13 janvier, qui retrace un peu les mécontentements qu'on vient d'évoquer.
Enlève ton masque, je t'embrasse. Si c'est la fin du monde, y'a qu'à le remettre si on se lasse. Tous les dessous, la pluie qui tombe. Tu me dis que tu m'aimes, ça sert à quoi? Y'a que de la haine autour du monde. Moi, je voudrais me barrer loin de chez moi. Autant que ma chanson sur les ondes. Enlève ton masque, enlève ton masque, enlève ton masque. Je voudrais partir en autre monde, loin de leur monde, oublier tout. Où y aurait que moi et puis ma blonde. Je crois que le monde est devenu fou. Je préfère encore me barrer dans le sud. Ma plage abandonnée avec mes chiens pour compagnie et qui voudra bien m'enlacer. Enlève ton masque, 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 enlève ton masque. Souvent cœur liberté, moi je veux faire le tour de la terre. Puisque vivre c'est transgresser, l'horizon sera nos frontières. Ils nous ont pris nos 18 ans, ils nous ont pris nos libertés. Mais la vie c'est suivre le vent, même quand le cœur est prisonnier. Je marche habillé de nos rêves, je voudrais juste vivre nu. Regarder le jour qui se lève, perdu dans un monde perdu. Faut se parer à l'autre bout du monde, faire l'amour. sans s'arrêter, s'embrasser sous la pluie qui tombe, se perdre pour se retrouver. J'ai pas la thune mais c'est pas grave, je dormirai en boîte de nuit, je me ferai un feu sur une plage avec mes chiens pour compagnie. On est jeunes, on est fous, on est la fin du monde.
Je suis Benjamin Moisset, je suis à Sud Éducation et je suis prof en collège en histoire-géographie. On est devant le rectorat, c'est une journée d'appel national donc, contre tout ce bullshit qu'il y a eu autour du protocole lié à la crise sanitaire au sein des écoles. C'est un appel national qui est porté donc, par la FSU, la CGT, Sud Éducation, la CNT, le SNAL que s'est raccroché l'UNSA également. Il y a aussi les organisations de jeunesse étudiantes et les organisations lycéennes.
Alors il y a une raison à cette colère, il y a une raison à cette grève, hein, elle ne sort pas de nulle part et c'est pas, contrairement à ce que dit Jean-Michel Blanquer, c'est pas une grève contre un virus, c'est une grève contre la casse d'un service public qui dure depuis des années. Et donc bien évidemment aujourd'hui nos revendications elles sont évidemment en partie intimement liées à cette question de la crise sanitaire. C'est demander des moyens bien sûr, des capteurs de CO2, des masques et autres. Mais la réalité c'est que la seule solution c'est bien de réclamer des postes, c'est de réclamer des postes d'AED, c'est de réclamer des postes d'AESH avec des conditions de travail décentes. Et bien évidemment c'est de réclamer des postes d'enseignants et d'enseignantes.
Je suis en grève parce que j'en ai ras-le-bol de la désorganisation de l'école. Depuis la rentrée de janvier, j'arrive pas à faire classe parce que ben, mes élèves sont absents, mes collègues sont absents, les ATSEM sont absentes.
Bon, moi, je suis enseignante en collège. Moi, j'ai l'impression des moments d'avoir une école qui fait garderie, en fait. Il faut qu'elle soit ouverte. Moi, je veux bien. Pour moi, c'est important qu'elle soit ouverte. Mais dans des conditions qui respectent en fait les personnes, les ados, les enfants, les adultes, voilà.
Alors nous on est AED au collège Condorcet et depuis le début de l'année en fait on a une surcharge de travail monstrueuse avec le protocole sanitaire
parce que c'est pas du tout notre métier de récupérer des autotests, des antigéniques, des attestations de vaccination, etc. En plus de ça, ça change tellement tout le temps que les parents sont perdus et nous aussi. Et donc la colère se fait ressentir parce qu'on est tellement peu qu'on ne s'en sort vraiment pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'élèves qui nous demandent notre présence parce que c'est ça le but d'être AED. Ben, en fait, on ne fait que de la surveillance parce que le reste du temps, on n'est pas disponible.
Voilà, on est devenu agent Covid plus qu'assistant d'éducation et on est dans la restriction permanente et dans un rôle de contrôle, en fait.
Nous, en tant qu'AESH, on est au contact direct des élèves.
Il a fallu déjà se battre pour avoir des masques. On n'a pas de purificateur d'air, on n'a pas de capteur de CO2. Moi, dans mon collège, on ouvre les fenêtres en permanence, donc on se gèle. On va en cours, on garde son manteau, on garde ses gants tellement on a froid, en fait. Actuellement, il y a quand même la moitié des personnels dans chaque école qui n'est pas là. On fait comme on peut, quoi.
Alors, je suis enseignante en anglais au collège Condorcet de Tulin et représentante syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges. Je sors de la délégation qui a été reçue à l'issue de l'AG de 13h d'aujourd'hui avec Madame la rectrice, alors que je lui dis que les équipes d'AED partout craquent. La solution qui est proposée, c'est que nous disposons d'un volant de 50 000 heures supplémentaires. Et la deuxième solution, c'est que nous avons aussi un énorme budget de services civiques et on trouve pas de gens volontaires pour les faire. Quand vont-ils se dire qu'un vrai travail mérite un vrai salaire ?
Et ce qu'on attend, bien évidemment, c'est des réponses. Et s'il faut, à un moment, qu'on aille directement voir les recteurs, les rectrices ou qu'on aille voir Jean-Michel Blanquer, eh ben on le fera. Et à mon avis, je vous le dis, ils ne sont pas préparés.
On vient d'écouter un reportage qui a été fait la journée du 13 janvier, donc journée de mobilisation assez importante de l'éducation nationale, là en l'occurrence à Grenoble, qui a suivi donc le moment un peu magique où le protocole sanitaire de l'éducation nationale a été appris la veille dans un journal qui, dans un premier temps, nécessitait un abonnement, alors que M. Blanquer était à Ibiza, ce qui a été un petit peu, ce qui a un peu scandalisé tout le monde, enfin en tout cas ce qui a scandalisé. Suite à cette mobilisation, il y a eu des annonces de Jean-Michel Blanquer, qui a annoncé la mise à disposition de 5 millions de masques FFP2 et la mobilisation de milliers de remplaçants. Là, on entend aussi des annonces de la rectrice de Grenoble. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ces réponses, elles sont suffisantes ? Je vois, Héra, que tu secoues vivement la tête. Je te laisse répondre.
Alors, je ne pense pas qu'elles soient suffisantes et surtout, on ne les a pas vues. Parce qu'on n'a pas de masque. En tout cas, peut-être nous, en tant qu'AED, on nous a donné une boîte et encore. Mais les élèves, c'est toujours aux élèves de se les procurer. Et surtout... Pour l'autre chose du coup qui a été proposée pour les remplacements, par exemple moi j'ai eu le Covid, personne m'a remplacé et dans notre équipe on est 6 et très souvent il y avait au moins une personne absente pour n'importe quelle raison, mais surtout à chaque fois c'était soit cas contact soit Covid, c'est pareil, elle a jamais été remplacée. Et pourtant, au début d'année, on nous a bien dit qu'il y avait une sorte de conseil où il y avait des remplacements pour les Covid, qu'on allait être aidés. Et on n'a jamais été aidés. Peut-être, je crois que c'est arrivé une fois sur 3 jours. D'ailleurs, on nous a demandé d'amener des personnes qu'on connaissait, nous. C'est même pas, c'est des gens de leur métier.
C'est vous qui devez chercher les remplaçants.
Voilà.
Intéressant. Et juste tout à l'heure, enfin, tu le disais aussi, là, ça a été redit. Une des réponses, ça a été donc à la fois la sollicitation de services civiques et le fait de mobiliser des heures supplémentaires, ce qui pour toi posait un autre problème. Est-ce que tu peux le réexpliquer ?
Oui, alors moi, ça me posait un problème parce que dans notre équipe, donc nous sommes 6 et nous sommes 4 à plein temps et les plein temps ne peuvent pas faire d'heures sup. Donc déjà, c'était pas possible. Et les deux autres ont choisi de faire à temps partiel. Pour leur raison, c'est-à-dire parce qu'il y en a une qui est maman, il y en a une qui doit s'occuper d'autre chose. Donc en fait, si elles voulaient faire plus d'heures, elles auraient pris un plein temps. Donc faire des heures sup alors que c'était absolument pas prévu et que nous, on demande des moyens, surtout qu'à la fin des journées, moi je me rappelle que j'ai eu des collègues qui pleuraient parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'on n'en peut plus, parce que les parents nous hurlent dessus, parce qu'ils ne comprennent pas, et en même temps, c'est la colère. Hein. Et donc du coup, en plus d'avoir personne, on a juste eu les heures sup qu'on ne peut pas faire.
Du coup, depuis ces annonces, rien n'a changé dans les écoles, finalement.
Je dirais que le protocole s'est peut-être allégé, dans le sens où on n'appelle plus la classe entière quand il y a un cas contact ou un cas Covid positif. On appelle uniquement les gens avec qui ils ont mangé. Donc en soi, le travail est différent. Il n'est pas moins chargé. Mais on arrive peut-être à sortir la tête de l'eau quand, en fait, l'administration nous aide. Et sans leur aide, on n'aurait pas pu. Sauf que ça leur prend aussi tellement de temps que leur mission à notre administration en tout cas, elle est bafouée aussi dans ce protocole.
Et aux primaires, comment ça se passe depuis les annonces ?
Au primaire, globalement, rien n'a changé, quoi. Pourtant, là, ça a été un mouvement massif, ça a fait un peu l'unanimité, quoi. Il y a la moitié des écoles qui ont été fermées, 2/3 des collègues qui se sont mis en grève. Et tout ça, ça a fait déjà peut-être tomber Jean-Michel Blanquer de son piédestal, parce que faire des protocoles sanitaires en short à fleurs, ou bien nous demander d'être exemplaires, et puis le fait de parler dans les médias, puis d'avoir un mépris pour les travailleurs et les familles, ça, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement de ton là, par rapport à ce discours méprisant, où là, par exemple, on a eu le protocole... Le nouveau protocole sanitaire, on l'a eu avant les vacances. Il a un petit peu anticipé, quoi. Ça n'a pas été fait la veille, puis c'est passé par des canaux un peu officiels. Ensuite, les boîtes de masques et puis le recrutement des remplaçants sur liste complémentaire, c'est symbolique, mais c'est des petites mesurettes qui vont rien changer du tout.
Je vais juste rappeler les chiffres qu'on avait donnés au début de l'émission, parce que là tu parles de mobilisation massive, donc on parle de, selon le ministère de l'Éducation nationale, de 40% de grévistes dans le primaire et 25% dans le secondaire. Et juste, moi je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de les listes complémentaires dont tu parles, de quoi il s'agit ?
Les listes complémentaires, c'est des personnes qui se destinent à être professeurs, et qui peuvent être appelés par l'administration pour faire des remplacements, puis après se voient titularisés l'année suivante. Donc ça en fait des fonctionnaires. Et pendant le rush un peu de la crise épidémique, le ministère préférait faire des annonces à Pôle emploi, ou bien voir encore pire, demander à des parents d'élèves de prendre des classes, voire à des enseignants retraités, qui à 60 ans, qui allait se prendre un petit bain de Covid, tu vois. Donc c'était vraiment un gros mépris. Là, les listes complémentaires, ça va pas combler les manques, mais c'est un côté symbolique qui fait qu'au moins ce sera des gens qui peuvent être titularisés.
Charlotte, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, parce que les listes complémentaires, elles vont être aussi, attention, c'est des jeunes qui se destinent à être enseignants, c'est des jeunes qui veulent passer le concours. Là, ils se retrouvent mis comme ça à chaud sur des classes à temps complet. Je leur souhaite avant tout de passer le concours, parce que là, ils vont être rémunérés, je crois, pas comme des enseignants. Et s'ils n'ont pas le concours, ils vont être comme des vacataires, considérés comme des vacataires. Donc, pour ces personnels-là, je pense qu'il faut faire très attention. C'est des jeunes, ils doivent passer le concours, ils doivent avoir un statut. Et c'est leur priorité, ça doit rester une priorité pour eux, sachant qu'avant qu'on les recrute, Pôle emploi, pour être enseignant en premier degré, c'est un bac plus 2. Il faut savoir ce qu'on demande aux enseignants aujourd'hui pour passer le concours. En tant que vacataire, un bac plus 2 suffit. Moi, ça me laisse, ça me laisse sans voix.
Et là, il y a eu des mobilisations dans les semaines qui ont suivi. Donc, il y a eu le 13 janvier là, qui était un peu massif, enfin plus massif en tout cas que les deux autres, le 20 et le 27. Est-ce que... où est-ce qu'elle en est, la mobilisation, aujourd'hui ? Parce que visiblement, il y a peu de choses qui ont bougé. Il y a quand même moins de gens qui se mettent en grève et qui manifestent. Est-ce qu'il y a des nouvelles dates ? Et puis, ce qu'on voyait aussi le 13 janvier, et qui avait un peu surpris et étonné, mais dans le bon sens, les grévistes, c'est qu'effectivement, on voyait aussi des personnels de l'administration. Il y avait des... Des syndicats d'inspecteurs, ouais, qui étaient aussi en grève. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a marqué le mouvement, qu'on sent toujours, ou alors le soufflet s'est dégonflé ?
Si même les chefs se mettent en grève, là, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe, quoi. On sera peut-être obligé de faire deux cortèges à un moment donné, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a grévé le 13, puis après, quoi. Là, le 20... peut-être que ça... Il y avait l'idée de... Il y a peut-être une brèche, puis peut-être qu'on va... On va aller reconquérir nos acquis sociaux et pédagogiques à ce moment-là. Puis, en fait, je pense que la situation sur le terrain entraîne tellement de surcharge de travail. Tout le monde a la tête dans le guidon, la fatigue, qui fait qu'il y a eu ce coup de... Ce répondant, là, par rapport au protocole du 7 janvier, Enfin, c'était pour moi, c'était un truc spontané, très ponctuel. Et on a vu le 27 janvier, c'était censé être là sur tous les services publics, on a vu moins de mobilisation. Après, j'ai pas l'impression que... Enfin, le gouvernement fait un peu le dos rond, quoi. C'est, en gros, à se dire, c'est compliqué en ce moment, mais c'est lié à la vague Omicron, la vague épidémique. Et puis quand ça va se tasser, la mobilisation des personnels va aussi se tasser. Puis on va continuer comme d'habitude avec ce truc de gestion un peu managériale néolibérale. Et on le voit très bien, là, à la rentrée, on demande aux écoles, en tout cas dans le primaire, de faire passer des évaluations nationales. Alors qu'en janvier, il y a quand même beaucoup d'élèves qui n'ont pas eu... Enfin, personne dans toute la France n'a eu classe de manière normale. Et ça pose pas de problème. On va quand même continuer à évaluer les élèves de façon... Enfin, les élèves, puis aussi les écoles, comme si rien ne s'était passé, quoi.
Charlotte ?
Alors, je ne sais pas si c'est une directive, parce qu'on n'est pas sur les mêmes circonscriptions, nous n'avons pas les mêmes inspecteurs ou inspectrices. Là où on travaille, nous, les évaluations nationales ont été repoussées et il n'y a pas de date encore auxquelles les élèves pourront les passer. Ils n'ont pas fixé de date, étant donné le nombre d'absences. Alors, je ne sais pas. Bah,
moi, j'ai l'impression, repoussées par rapport à janvier. Normalement, elles auraient dû avoir lieu en janvier.
Oui, et elles n'ont pas eu lieu, ouais. Et pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'elles aient lieu. Peut-être qu'ils les repousseront plus tard, peut-être pas. Pour l'instant, nous, personne ne s'est prononcé sur les évaluations nationales. Pour la grève, on a tous été mobilisés, on a eu un gros coup de ras-le-bol, et on est pris par, je pense, nombreux, on est pris par une culpabilité... je peux parler de moi, en fait, mais moi, je suis vraiment prise par la culpabilité de ne pas travailler une journée, sachant tout ce qui s'est passé, toutes les absences qu'il y a eu, parce qu'on parle des absences des enseignants, des absences des enfants. Il y a eu aussi, par exemple, à Grenoble, beaucoup de grèves de la cantine. Donc il y a des enfants qui étaient chez eux une semaine et puis après revenaient en classe et puis finalement non, devaient revenir parce qu'ils n'avaient pas cantine. Enfin, ça c'est pour les parents, ça a été d'une complexité, d'un stress et si nous on peut parler de notre fatigue et de l'épuisement de cette période-là, je pense que pour les parents c'est un épuisement aussi et vraiment moi je suis prise par la culpabilité. Je m'en veux un peu parce que je sais c'est ce qu'on attend de moi plus haut, mais je suis vraiment prise par la culpabilité de laisser les élèves.
Là on vous avait parlé du coup de la situation dans... Enfin, ce que moi j'ai l'impression d'entendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cas par cas, et qu'après les situations ne sont pas les mêmes, que ce soit en collège ou en établissement primaire. En lycée, peut-être, Mounaïm et Géraldine, comment vous avez. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours. Je ne sais pas, qu'il y a toujours une envie de se mobiliser, ou en tout cas qu'il y a un ressentiment qui est toujours là, ou alors est-ce que c'est la culpabilité qui prime, ou le ras-le-bol aussi, parce qu'il y a un moment aussi, on en a marre, quoi.
Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, en ce qui concerne... il y a à la fois du ras-le-bol et de la culpabilité. Parce qu'on culpabilise, on a l'impression de mal faire notre boulot. Et du ras-le-bol, parce que y a des fois, on est des humains, et quand on a trop de choses à faire, trop de choses à gérer, et que pédagogiquement, quand vous avez 15 élèves qui sont absents pendant une semaine et demie, il faut les raccrocher au wagon du cours et c'est très fatigant en fait. Voilà.
Géraldine.
Du coup, nous, il y a eu l'annonce là début février comme quoi les épreuves anticipées donc de la réforme en fait du bac étaient repoussées. Donc, ce qui veut donc dire là qu'il y a eu toute une progression pédagogique à refaire. Et je pense que là, il y a beaucoup de collègues complètement démotivés. C'est de la démotivation, je pense, plus. Là, ouais, ouais.
Là, les épreuves anticipées, c'est donc les épreuves qui ne sont pas dans les épreuves du bac, qui se font en amont dans l'année, c'est ça ?
Exactement, qui ne se font pas donc, en contrôle terminal en juin. Ouais.
Et là, elles ont été reboussées parce que situation Covid, mais du coup, ça désorganise un peu toute l'organisation.
Exactement, ouais.
Donc, on vous demande une énorme flexibilité.
Exactement. Donc, c'est vraiment un peu, c'est de la lassitude. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues amers. Il y a une grande lassitude. Et je pense que là, la plupart ne sont même plus dans la culpabilité aussi. C'est de la lassitude, en fait. Ouais.
Petite pause musicale pour reprendre nos esprits après toute cette lassitude.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Since you were a 20, I was 20, and thought that some years from now, a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. Hold your sanity. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. На-на-на-на. Start wearing purple for me now. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now.
Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8, on est dans micro-ondes jusqu'à 14h. Donc on a beaucoup parlé de la mobilisation du personnel de l'éducation nationale du 13 janvier suite aux énièmes protocoles sanitaires annoncés. C'est pas le seul secteur qui s'est mobilisé ces derniers temps et qui est chapeauté d'ailleurs par le même ministère. Donc de l'éducation nationale. Il y a aussi l'animation, donc les animateurs, animatrices qui se mobilisaient notamment durant la grève interprofessionnelle du 27. Et on est allé les rencontrer. Eux aussi, ils vivent un peu des conditions de travail de toute façon qui ont toujours été compliquées. Un manque de considération, manque de préparation des activités, des bas salaires, des gros effectifs à gérer. Et le Covid est loin de les avoir améliorés. Je vous propose d'écouter du coup une petite brève qui a été réalisée par des camarades à ce sujet.
Animation, éducation, une seule solution, la révolution. Animation, éducation, une seule solution, la révolution.
Et ben
merci en tout cas Alexis d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux te présenter, quel est ton travail et voilà, qu'est-ce que tu fais au quotidien?
Donc moi je m'appelle Alexis, je suis animateur périscolaire et également extrascolaire. Donc je travaille sur l'accueil de loisirs, en plus du travail du périscolaire sur une école.
D'accord. Est-ce que pour les gens qui connaissent pas justement, tu peux raconter un peu en quoi consistent les différents métiers de l'animation et puis qu'est-ce qui les regroupe aujourd'hui un peu dans un même secteur?
Alors le secteur de l'animation, c'est un secteur qui a pas l'air comme ça, mais qui est plutôt large. On pense tout de suite le gros corps de métier qui est dans l'enfance, la petite enfance et l'enfance, souvent les 3 à 12 ans. C'est l'animation, c'est ouvert à tous les publics. Donc on a les enfants, les adolescents et les adultes. On a des collègues qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent auprès de personnes âgées. On a des collègues qui travaillent aussi dans des IME, donc instituts médico-éducatifs, auprès de personnes en situation de handicap. Souvent, tous ces corps de métier, tu vas les retrouver principalement dans l'associatif, et également aussi dans le public, pour certaines structures dans le public. Bien évidemment, les mairies, par exemple, peuvent recruter des animateurs sur les temps périscolaires. Donc voilà.
D'accord. Et par rapport aux conditions de travail, justement, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, quelles sont vos conditions de travail, en tout cas pour ce qui est de ton métier à toi, et est-ce que c'est des choses qui ont évolué récemment, notamment, je pense, à la crise du Covid? Oui.
Donc dans les conditions de travail, un animateur périscolaire, il a des horaires coupés. Il a le matin de 7h30 à 8h30. Alors ça dépend des contrats, bien sûr. Hein. Il y en a qui ne font pas les matins, mais il y en a souvent qui font le matin de 7h30 à 8h30 pour accueillir les enfants avant l'école. Il y a une coupure jusqu'à ensuite 11h30, 13h30. Donc sur la pause méridienne. Et enfin, on va avoir de 13h30 à 15h30 une autre coupure, et tu reprends à 15h30 pour te préparer pour le périscolaire du soir, avec, ça dépend des structures, en général, il y a ce qu'on appelle des TAP, des temps d'activité périscolaire. Voilà, c'est le périscolaire, ça demande tout ça, et il faut de la préparation pour ça. Et actuellement, aujourd'hui, là où on n'est pas content non plus, c'est qu'on manque de ce temps de préparation. Et ça a été bien souvent également le cas en centre de loisirs aussi. Le temps de préparation fait toujours défaut, de plus en plus. Comment ça a évolué avec le Covid? Mal. On est dans l'urgence, tout le temps. Donc quand tu es dans l'urgence, tu n'as pas le temps de bien préparer, à bien ficeler ton animation. Les autres conditions aussi qui ont évolué, c'est que depuis le Covid, surtout, on a une pénurie d'animateurs. Donc, forcément, le taux d'encadrement devient compliqué. Normalement, si je suis en périscolaire, on compte un animateur pour 18 enfants. Et déjà, on sentait qu'il y avait une baisse dans les coûts, on sentait que de plus en plus, ça tirait un petit peu sur la préparation, sur le matériel à accéder, sur les temps de réunion qui autrefois permettaient de bien construire les choses. Aujourd'hui, ça baisse. Et avec le Covid, là, le manque d'animateurs, on est parfois en sous-effectif, disons-le carrément. Hein. Il y a aussi le fait que les conditions de travail de base sont peu intéressantes. Par exemple, un animateur en centre de loisirs qui n'a pas un contrat comme le mien, hein, mais j'entends les fameux CEE, les contrats d'engagement éducatif, ça c'est une belle arnaque. Hein. On paye quelqu'un au forfait, on pourrait payer minimum quelqu'un 26€ de la journée pour 10 heures par jour, 11 heures par jour, tu vois, pour faire des colonies de vacances, pour faire du centre de loisirs. C'est intense quand même, hein, parce que, comme je le rappelle, on n'est pas là que pour jouer avec les enfants. Il y a aussi tout l'aspect de la vie quotidienne, etc. Et puis même, un jeu, ça se prépare. C'est pas non plus les vacances. Donc il y a déjà ça. Le Covid a mis un coup dans les formations aussi, parce que il y avait des formations en cours qui ont dû être annulées. Donc il y a des jeunes qui se retrouvent sans avoir pu compléter leur formation BAFA, Mais je pense pas que ce soit l'accès au BAFA qui soit que le problème, honnêtement. Je pense aussi que c'est le travail est de moins en moins intéressant, en fait. Parce que trop soumis à l'urgence, parce que les conditions se dégradent. Donc il va falloir peut-être d'abord aussi faire le ménage là-dedans.
Ok. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots pourquoi vous êtes en lutte, c'est-à-dire quelles sont les différentes revendications un peu du mouvement actuel et puis voilà, quels sont un peu les prochains rendez-vous, enfin comment vous imaginez la suite de la mobilisation?
Bah, pourquoi on est en lutte aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, c'est que nos conditions de travail se dégradent. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'abord avoir des conditions dignes pour travailler, de mettre fin à la précarité de ce métier. Il va falloir qu'on puisse avoir des temps de préparation, il va falloir que les gens arrêtent d'avoir des horaires coupés, et qui plus est, si tu dois travailler maximum en périscolaire, tu vas pas faire un temps plein. Donc nous, on demande à ce que les gens puissent accéder à des CDI en temps plein, parce qu'ils peuvent avoir du temps de préparation. On aimerait bien une hausse des salaires également, parce que c'est une misère. Donc en plus, tu as des horaires coupés, tu es en temps partiel, et en plus, tu es payé une misère. Donc en gros, quelqu'un va toucher en moyenne de temps partiel, tu finis avec 550 € par mois. Et puis, ben, vu que c'est des horaires coupés, ben, va essayer de compléter avec ça, à part trouver peut-être une place d'AVS dans les écoles. Ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. C'est précaire. On demande une vraie reconnaissance du métier. Un animateur, ça existe. Si on n'est pas là, les enfants vont pas se garder tout seuls, en fait. Le 8 février ont lieu les négociations pour le nouvel avenant, enfin, retravailler la convention collective de l'animation dans le secteur privé. Et ce qu'ils essaient de faire passer, c'est encore d'aller dans le sens inverse, c'est d'aller à contre-courant de ce qui se passe, c'est-à-dire on a une précarité du métier et on manque d'animateurs, le métier devient de moins en moins intéressant, et eux, ils enlèvent les perspectives d'évolution. Voilà, là il y a le 8 février, il y a un mouvement, le 8 et 9 février, il y a un mouvement qui se lance dans toute la France. Il y en aura sans doute aussi en mars. Et ça va être un mouvement qui va continuer, en fait, tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, tant qu'on ne sera pas reconnu, tant qu'ils feront pas des efforts de leur côté pour aller aux tables des négociations et aller dans le sens de valoriser le métier, qu'on soit mieux reconnu, mieux payé, avec plus de temps, ben on va continuer.
Est-ce que toi tu vois des points communs, des problématiques communes justement qui sont partagées avec l'éducation nationale?
Ah ben oui. oui. Jean-Michel Blanquer.
Vous avez le même ministre, c'est vraiment pas de chance.
C'est comment dire comme nous on travaille dans les écoles. Pour beaucoup, on est soumis au même protocole. On essaie de faire au mieux et de respecter ce protocole. Et là, on va vers des changements continuels toutes les 3 semaines, 2 semaines, où on va faire ceci, finalement on va faire cela, maintenant ils vont faire les autotests chez eux, vous les acceptez pas. Mais c'est une violence. Il faut arrêter là. Et puis les parents, ils ont du mal à suivre aussi. Et puis je me vois mal, moi, le matin, à chaque fois leur dire « Non, je vais pas prendre votre enfant, j'ai pas l'autotest ». Avec le collectif dont je fais partie, on est allé dans la rue le 27. On voulait être aussi en soutien avec les profs, parce que on rencontre aussi les mêmes soucis. On est là voilà quoi. Après, on n'a pas le même métier, mais on est touché de la même manière. Et ça c'est important. Et voilà, je pense qu'il faut là, il faut vraiment qu'on soit tous solidaires, en fait.
Ibiza pour Blanquer, AESH dans la mise. Ibiza pour Blanquer, AESH dans la mise. Ibiza pour Blanquer, AESH dans la mise.
Ok, est-ce que toi tu vois un dernier truc à rajouter de ton côté?
Si c'est entendu par des parents, en tout cas, on connaît tous des parents, voilà, si on peut m'entendre. Les animateurs sont essentiels. On on est revenu tout de suite dès qu'il y avait besoin, par exemple, de garder les enfants, des médecins, etc. On était là. Dès que les écoles ont ouvert, on était là. On est sur le premier maillon de la chaîne. On a besoin de nous aussi. Et pourtant, on dévalorise clairement ce métier. On donne pas envie aux gens de le faire. On est en pénurie. On aurait aussi besoin que les parents se mobilisent avec nous.
Eh ben, ça marche. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bonne suite dans cette lutte et bonne chance.
Merci en tout cas d'avoir interviewé. C'est cool de nous donner la parole.
Animation, éducation, une seule solution, la révolution. Animation, éducation, une seule solution, la révolution.
Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans Micro-ondes. On vient d'écouter du coup une brève sur le secteur de l'animation en lutte. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que c'est un secteur dont vous sentez proche et dont vous avez aussi vu les conséquences pour vous, quoi, dans les écoles?
Alors, comment ne pas réagir à ce qu'on vient d'entendre? C'est 100% de la réalité, de ce que vivent les enfants et de ce qu'ils ont à subir la journée. Toute la journée, les enfants sont encadrés par des gens, ou par les enseignants, ou par des animateurs, qui ne sont pas considérés. Et je me demande, moi, ça me fait réfléchir maintenant, comment on considère les enfants, tout simplement. À payer les gens qui s'occupent d'eux, qui les instruisent et qui les forment pour être de futurs citoyens, si mal, les considérer si mal, les humilier, qu'est-ce qu'on pense de nos enfants? Comment, enfin, moi, c'est ça qui m'interroge et c'est ça qui me rend peut-être le plus en colère, c'est que les enfants aujourd'hui devraient se révolter parce que vraiment, vraiment, ils sont maltraités et ils sont encore plus maltraités dans cette crise qu'avant. Et ils ont le droit à avoir une animation de qualité et ils ont le droit d'avoir une éducation de qualité. Voilà, ne méprisons pas nos enfants. Donc évidemment, moi je suis en soutien à 100% avec les animateurs comme les AESH, voilà, parce que je suis en soutien des enfants. Et c'est ce qui compte pour moi dans ma profession.
Les AESH, du coup, c'est les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui sont eux aussi, du coup, des personnels très précaires. Romain, tu voulais réagir?
Peut-être ajouter que ce genre de lutte de personnel précaire, il faut qu'on... Nous, en tant qu'enseignants, on ne subit quand même pas les mêmes pressions. Enfin, il faut qu'on soit solidaire de ces luttes, quoi. Il faut arriver à faire en sorte que dans le domaine de l'éducation, tout ça, il n'y ait plus de précaires, il n'y ait plus de situations de cette manière. Et on a vu que pendant le confinement, la fermeture des écoles, ça a quand même bien foutu le bordel. 2 semaines de fermeture des écoles, je pense que ça permettrait de reconsidérer un peu les choix politiques, économiques, idéologiques qu'on subit, là. Et que c'est un peu dans la lutte avec les animateurs, avec les AESH, puis aussi dans la lutte pour une autre école qu'on va obtenir des choses. Parce que des sous, il y en a. Hein. Blanquer, il en a rendu des millions d'euros, ou a financé des cabinets d'audit pour nous dire comment mieux faire notre travail, comment mieux accompagner les élèves. Ça, je pense qu'il y en a, il va falloir aller les chercher, quoi. Et toutes les luttes qui sont en ce moment, tout ce qu'on voit sur le terrain, elles sont toutes légitimes, puis il faut y aller, quoi. Il faut profiter de cette brèche.
Oui, effectivement, on a appris qu'en 2021, je pense, il y avait eu 75 millions d'euros qui avaient été non dépensés, en tout cas par l'éducation nationale, et donc du coup rendus, quoi. Dans une crise dont qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, où les moyens manquent terriblement et les moyens humains à commencer.
On va finir cette émission par un petit agenda. Donc on a fait globalement le tour de la gestion du Covid et merci beaucoup à vous toutes et tous pour vos réactions. Dans une deuxième émission la semaine prochaine, on abordera de manière plus détaillée le système Blanquer. Mais avant tout cela, un petit agenda qui nous a été préparé par Jeanne. Donc le mardi 22 février à 19h30 au Thé à Coudre, il y a un club de lecture féministe organisé par le club de lecture et de podcast féministe grenoblois qui s'appelle Frondaison, qui organise une rencontre autour du roman La puissance des mères de Fatima Wasak, donc qui est un ouvrage qui s'appuie sur les luttes menées par les folles de la place Vendôme dans les années 80, mais aussi pas sur les combats de Front de Mère, hein, qui est une association fondée par Fatima Wasak. Et donc dans le livre, elle met en avant le potentiel stratégique des mères, qui pour elle, en se solidarisant avec les enfants, et en jouant un rôle tampon entre les enfants et la violence des institutions, peuvent être de véritables alliés, voire être vraiment une menace pour l'ordre établi. Donc ça, c'est le 22 février à 19h30, Thé à Coudre. Le jeudi 24 février à 20h, à Antigone, il y a la présentation de la revue L'Inventaire, à prix libre. C'est une revue de critique sociale qui sera suivie d'une réflexion sur le sujet du complotisme, Et donc qui sera l'occasion de réfléchir au fait que potentiellement il y a aujourd'hui une assimilation assez systématique de toute pensée politique dissidente à du complotisme et qu'il peut s'agir d'une stratégie en fait politique utile au pouvoir. Et donc l'idée, c'est de se poser aussi la question de à quelle information aujourd'hui, alors qu'on est bombardé d'informations, à quelle information on doit ou on peut accorder du crédit pour arriver à une compréhension plus juste de notre époque. Et enfin, tous les jeudis, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter tout au long des émissions micro-ondes, c'est super, tous les jeudis à 17h, il y a la permanence de l'université autogérée de Grenoble, parce que oui, il y a une université autogérée à Grenoble, qui a été créée sur le campus de Saint-Martin-d'Air, donc ça se passe au local du Petit Vélo dans la Tête. Et l'idée c'est de, donc c'est une permanence pour échanger sur ce que c'est l'université autogérée, rencontrer les personnes qui la mettent en place, discuter de l'importance ou pas d'avoir des savoirs autogérés. Voilà, donc c'est des discussions ouvertes. Vous êtes tous et toutes invités à y participer. Et on finit cette émission par une petite musique proposée par Clary.
C'est une petite dédicace à Mounaïm. bon anniversaire Mounaïm. Et nous allons clôturer cette émission en remerciant toutes les personnes qui ont été invitées autour de cette table aujourd'hui, c'est-à-dire Romain, Hera, Mounaïm, Charlotte et Géraldine, et bien sûr Samia en technique. À la semaine prochaine.